7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et l'on va évoquer les résultats des municipales en France avec, comme titre par exemple du Figaro, la déferlante écologiste ressuscite la gauche sur fond d'abstention historique. Le second tour des municipales est marqué par le réveil de la gauche porté par les listes écologistes qui l'emportent notamment à Lyon, Marseille, Strasbourg et Bordeaux. Pour en parler, nous sommes en compagnie de Daniel Bois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à Sciences Po et du journaliste Gérard Courtois. Bonjour Gérard Courtois. Bonjour. Alors, s'agit-il d'une vague verte, Daniel Bois ?
Oui, cette fois-ci, clairement, c'est une vague verte, puisqu'au fond, il y avait bien sûr quelques résultats qui étaient attendus. Lyon, c'était... on s'en doutait, Grenoble bien sûr, Besançon aussi, on s'y attendait, mais ça a dépassé très très nettement ce cas puisqu'on a eu des choses un petit peu inattendues. Bordeaux s'était serré, mais bon, c'est une réussite un petit peu étonnante par rapport à ce qu'on attendait a priori. Lille, le fait que Madame Aubry ait sauvegardé sa ville vraiment de très 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 peu, quelques 200 voix. Strasbourg, c'était pas du tout évident. Donc oui, manifestement, il s'est passé quelque chose et on peut appeler ça une vague verte sans aucun doute.
Il s'est passé quelque chose, Gérard Courtois, où il s'agit de verre de circonstance avec cette alchimie particulière, une abstention forte, un parti présidentiel faible.
Oh non, je crois qu'il s'est vraiment passé quelque chose, au sens où, si on résume à très gros traits, pendant longtemps, les écologistes ont été des lanceurs d'alerte, disons, depuis René Dumont en 1974, puis ils ont été, au fond, les alliés, pour dire les choses plus trivialement, les supplétifs des socialistes, soit avec Lionel Jospin en 97, soit avec aux côtés de François Hollande et parfois contre François Hollande entre 2012 et 2015, me semble-t-il, il y a des écologistes qui sont restés jusqu'au bout du mandat de François Hollande. Là, on est vraiment face à une nouvelle génération d'écologistes qui ont un rapport non plus névrotique mais décomplexé au pouvoir, qui veulent exercer des responsabilités. Ça, c'est à mon sens la grande nouveauté de cette alors vague déferlante, peu importe le mot, mais enfin de ce succès très très évident. Daniel Bois le rappelait, je rajoute des choses qui manifestement n'avaient pas été anticipées, comme à Poitiers, la victoire des écologistes contre des socialistes. Alors la question, c'est au fond, parce que on a l'impression que les écologistes, vous disiez la une du Figaro, ressuscite la gauche. Mais en l'occurrence...
C'est ce que pense aussi l'Humanité. La Macronie prend une gauche après le second tour. La stratégie d'implantation locale est un échec. Et donc l'alliance entre la gauche et les Verts provoque cette situation.
Non, ce qui me paraît intéressant, c'est l'alliance assez étroite. Alors il y a beaucoup de cas de figure, mais l'alliance étroite entre les socialistes, à l'exception, on l'a dit, de Lille ou de Dijon, mais l'alliance des socialistes et des écologistes, avec une France insoumise qui a fait l'impasse sur ce scrutin, et un parti communiste qui perd encore une bonne partie des derniers bastions qu'il détenait, notamment en région parisienne, avec la victoire des socialistes à Saint-Denis. Donc les socialistes sont pas du tout laminés. Alors ils avaient pris une très sévère défaite en 2014. Ils regagnent du terrain, ils conservent leur bastion, ils regagnent du terrain. Donc il y a une relation qui va être intéressante à construire. Alors, les écologistes donnent évidemment au soir d'une telle victoire le sentiment que c'est eux qui sont dans la dynamique. On va voir comment les choses se passent entre ces deux partenaires socialistes et écologistes.
Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Bois ? Est-ce que finalement ces écologistes, ils permettent de recomposer une gauche, comme semble le dire l'Humanité ?
Oui, enfin... C'est un peu tôt pour le dire, mais c'est vrai en bonne partie, parce que si on y réfléchit, au fond, du point de vue des idées, du point de vue idéologique, bon, on avait une gauche depuis longtemps qui, on dira rapidement, avait un peu sous-traité l'écologie. Hein, au moment des élections, quand ils se sentaient un peu menacés par le vote écolo, il y avait des accords ici ou là, comme Gérard Courtois vient de le rappeler. Mais au fond, le PS n'avait pas vraiment réussi à prendre cet enjeu en main, sérieusement pour le travailler, etc. Bon, arrive de 2017 et là tout change parce que tout d'un coup Benoît Hamon, plus écologiste que lui, on connaît pas, mais c'est un petit peu tard quand même. C'est un petit peu tard et le bon. Maintenant, quand on réfléchit à la cartographie idéologique de ces deux partis, dans la période actuelle, au fond, la gauche, imaginons qu'elle accepte telle quelle l'héritage écologiste. Et c'est ce qui semble se passer. Hein. Rappelez-vous que le PS, maintenant, il est sous-titré écologie, social-écologie. Donc ça a vraiment changé des choses. Il n'y a pas longtemps, le PS a réagi aux 149 ou 150 mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, qui sont pas tièdes hein, comme mesures. Il a réagi sur son site en disant que c'était très bien tout ça. Donc, au fond, le PS ne met plus d'obstacle idéologique au problème de l'environnement. D'un autre côté, les Verts, par rapport aux idées, disons, plus classiques de la gauche, c'est-à-dire les valeurs sur l'État et le marché, etc. Mais au fond, il accepte tout aussi, puisqu'au fond, on a bien vu dans les années dernières que les écologistes étaient très proches du PS, pas de n'importe quel PS, de la gauche classique, je veux dire. Hein, mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils étaient... la fracture qu'il y a eu à l'intérieur du PS... a bien montré que les écolos étaient plus près en fait du PS traditionnel que de ce qu'on appelait autrefois la deuxième gauche. La vraie problème actuellement du PS et de l'écologie, mais qui est une bonne nouvelle pour eux, c'est qu'au fond la deuxième gauche, celle issue de Rocard, etc., elle a été dissoute dans le macronisme. Elle a disparu d'une certaine, je dis pas définitivement, mais pour l'instant elle a disparu. Ce qui fait qu'au fond, ben, le PS et les Verts sont bien alignés, à la fois parce que le PS accepte l'héritage environnemental et parce que, au fond, les écolos sont assez satisfaits avec les valeurs de la gauche, je dirais, traditionnelle.
Pour le reste, il y a également dans ce scrutin un enseignement sur le score de La République En Marche, Gérard Courtois, un revers.
Oh oui, c'est on peut appeler ça poliment un revers. C'est un véritable échec par rapport, en tout cas, aux illusions que les macronistes avaient pu nourrir, soit après la présidentielle évidemment, où Emmanuel Macron avait fait des scores tout à fait souvent impressionnants dans les villes, ou également aux européennes de l'an dernier. Par rapport à ces scores, un certain nombre de responsables du parti présidentiel se sont manifestement imaginé que toutes ces villes allaient tomber comme des fruits mûrs, à commencer par Paris.
Bon, ça ne s'est pas exactement passé ainsi.
Ça ne s'est pas exactement passé ainsi. C'est vraiment la punition des enfants gâtés, Paris. Enfin, c'est extraordinaire d'avoir réussi à une telle bérésina, puisque Madame Buzyn ne va même pas être au Conseil de Paris. Elle ne sera conseillère d'arrondissement avec ses 13%. Alors quand je dis les enfants gâtés, bon, je pense évidemment à Emmanuel Griveaux, puis à ses frasques, puis à Madame Buzyn et poliment à ses pleurnicheries. Voilà, donc ce sont des responsables politiques qui ont tout eu d'un seul coup. Ils ont des ministres, ils ont eu le pouvoir, et puis voilà, ils ont cru que le reste allait suivre.
Mais alors, du coup, on a une situation qui est politiquement inédite. On a un parti présidentiel qui est majoritaire au Parlement et dont l'implantation locale laisse à désirer.
Le parti d'Emmanuel Macron, c'est le parti d'Emmanuel Macron. C'est un parti unipersonnel qui a été fait pour lui, par lui, et on sait bien depuis 3 ans que ce parti manque de relais, de racines, d'enracinement et de responsabilité.
Il aurait pu en acquérir.
Il aurait pu en acquérir. Je crois qu'il s'est il s'est illusionné sur ses capacités de gagner des villes. Deux, il faut quand même pas oublier ce qui s'est passé depuis 3 ans et le mouvement des Gilets jaunes, les grèves contre les retraites, le discrédit non pas abyssal mais sérieux du président de la République. Bon, plus la crise du Covid. Donc tout ça évidemment la réaction habituelle dans des élections de mi-mandat comme ça, de sanctions contre les gouvernants et les gouvernements. Donc voilà, il n'y a pas, c'est, mais je veux dire, ils étaient, c'était difficile, et ils ont tout fait pour que ce soit encore plus compliqué.
Avec un symbole qui est celui de Lyon, Daniel Bois, avec la victoire donc de Grégory Doucet contre Gérard Collomb. Alors Gérard Collomb n'est plus au gouvernement, mais il est considéré comme étant l'une des chevilles ouvrières de l'élection d'Emmanuel Macron. Même chose à Bordeaux. Bref, si vous deviez analyser justement à l'échelle locale dans ces deux grandes villes ou dans d'autres grandes villes, comment les Verts ont réussi contre La République En Marche?
Oui, en fait, c'était un peu des cas particuliers, hein, parce que Lyon, bien sûr, il y a cette montée d'écologie, puis il y a aussi la gestion calamiteuse qui a été de Lyon à la fin.
Pourquoi?
Parce que cette manière de partir et puis de revenir et puis de mettre à la place quelqu'un du genre « garde-moi la place, je vais revenir », puis de se fâcher avec ce quelqu'un, je pense que ça a pu un peu agacer les Lyonnais quand même, cet aller-retour. C'est-à-dire cette manière de se penser propriétaire de ce poste et puis au point de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre et ceci étant vrai à la métropole et puis des fâcheries entre eux. Au fond, je pense que les électeurs, ils aiment pas tellement ça. Donc je pense que les deux ont marché ensemble. À la fois une vraie poussée écolo comme dans beaucoup de grandes villes et puis un certain agacement de la manière dont Collomb a géré sa mairie avec ses allers-retours. Donc ça, je pense que c'est important. Bordeaux, c'est un cas un petit peu différent, c'est plus surprenant quand même, hein, parce que il restait Poutou comme candidat. On voit bien qu'une partie de l'électorat de Poutou l'a quitté, parce qu'il faisait un peu plus de 11, cette fois il fait que 9. Voilà, mais c'est un petit peu des cas particuliers. Puis Marseille, c'est aussi un cas, excusez-moi, un tout petit peu particulier, parce qu'en fait, en réalité, à Marseille, il y avait des écolos au premier tour, distincts de la ligne de Rubirola. C'est-à-dire que Rubirola, écologiste elle-même, était d'une certaine façon dissidente. C'est-à-dire qu'elle avait choisi cette liste du printemps marseillais, alors que les Verts présentaient des listes. Bon, ça s'est arrangé rapidement au second tour, mais c'est un cas un tout petit peu particulier, et c'est plutôt une victoire de la gauche qu'une victoire des écolos. Mais enfin, ça ne freine en rien le succès des écolos. Il y a juste un point sur lequel il faut, à mon avis, revenir, si vous me laissez un tout petit peu la parole, c'est effectivement le problème de l'abstention. Dans ces villes, on est autour de 33% de participation, un peu plus d'un tiers de participation, hein, plus à Bordeaux, moins dans certains cas. La question qui se pose, c'est lorsqu'on a un tiers, un peu plus de tiers, entre un tiers et 40% des électeurs qui se prononcent, est-ce qu'on est bien sur le même corps électoral qu'on va avoir dans les élections suivantes? Évidemment, c'est l'effet Covid. Bon, on peut penser quand même que l'effet Covid, il sera plus là au moment de la prochaine élection, qui est très importante pour les Verts, les régionales. Les régionales, à 50% d'abstention, hein, aux dernières régionales. Donc oui, on peut dire au fond, si je prolonge ce corps électoral avec un peu plus de participation, ça devrait marcher. Et là, il y a quand même des portes. Je vais un peu vers le futur, mais il y a quand même des portes, puisqu'il y a 5 régions de gauche. Et donc, on peut imaginer que gauche et écolo partiront à l'assaut de ces régions.
Gérard Courtois.
Oui, j'ajoute un point qui prolonge ce que disait Daniel Bois à l'instant. Effectivement, dans les causes de l'échec, on peut appeler ça comme ça, du parti présidentiel, il y a bien entendu ces espèces de d'accords baroques, enfin baroques, pas du tout baroques, d'ailleurs je sais pas pourquoi je dis ça, entre La République En Marche et les Républicains. Alors on l'a vu à Lyon, ça n'a pas marché. On l'a vu à Strasbourg, ça n'a pas marché. Et donc il y a eu le sentiment manifestement que, au fond, ce parti qui se prétendait réinventer les choses faisait de la cuisine opportuniste de la plus belle eau. Et donc il y a eu aussi ce facteur-là qui a joué manifestement dans plusieurs échecs des marcheurs, notamment là où ils espéraient, à Strasbourg et conserver Lyon.
Est-ce que l'une des conséquences de l'abstention, c'est aussi cette situation politique particulière, Gérard Courtois, puisqu'il faut effectivement analyser, comme cela est fait dans la presse aujourd'hui, c'est 59,5% d'abstention.
Oui, alors il faut pas oublier quand même qu'on est sur une tendance lourde, hein, sur toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, depuis 30 ans, 40 ans. Aux plus belles années, entre entre guillemets, en 77 et en 83 pour les municipales, on était à 80% de participation. Et depuis 83, depuis une trentaine d'années, ça a régulièrement baissé jusqu'à 2014, on était de mémoire à 62% de participation au second tour. Bon, alors là, on est 20 points en dessous. Quelle est la part de l'épidémie de Covid? Elle est évidente, elle a été évidente au premier tour. Manifestement, si on en croit les sondages, enquêtes qui ont été faites hier, ça a également joué sur, ça a également eu un effet dissuasif pour bon nombre d'électeurs. Je pense qu'il y a, quand même, au-delà, il y a une chose qui m'a beaucoup, presque amusé. C'est le commentaire de Jean-Luc Mélenchon qui a parlé de grève civique et trouvé là la justification. C'est quand même extraordinaire, un responsable politique qui dénonce la grève, qui pointe la grève civique, alors que pratiquement la France insoumise a fait l'impasse sur ce scrutin. Donc c'est assez paradoxal de dire les gens ne sont pas allés voter alors que soi-même on n'a pas été candidat, que ses propres troupes n'ont pas été offensives sur le terrain démocratique.
Mais ça signifie aussi, pour partie en tout cas, Gérard Courtois, que l'offre politique n'est pas jugée suffisamment satisfaisante ou attractive en tout cas par les électeurs.
Oui, c'est évident. Alors, c'est évident dans le mouvement structurel, c'est encore plus évident avec cette chute brutale, même si une part difficile à quantifier relève de la crainte de se déplacer en période de risque épidémique. Ça ne fait que, au fond, démontrer ce que beaucoup d'enquêtes disent depuis des années, c'est que le vote n'est plus considéré comme un acte civique essentiel, nécessaire et qui permet de changer les choses.
Gérard Courtois, Daniel Bois, on vous retrouve aux environs de 8h20.
Les matins de France Culture, 7h-9h. Guillaume Herner.
À 8h22, nous sommes donc en compagnie du journaliste Gérard Courtois, de Daniel Bois, directeur de recherche à Sciences Po, et de mon camarade Frédéric Saïs. Nous avons vu dans quelle mesure la déferlante écologiste avait ressuscité la gauche. Je cite Le Figaro, avec une abstention historique, un second tour des municipales qui est donc marqué par le réveil de la gauche porté par les listes écologistes qui l'emportent, notamment à Lyon, Marseille, Strasbourg et Bordeaux. On a vu dans quelle mesure, selon Gérard Courtois, on avait affaire à un sévère revers électoral pour La République en marche. Les Républicains gagnent des villes moyennes et perdent dans le même temps des bastions historiques, notamment Bordeaux. Et puis un rassemblement national, on en a peu parlé, Gérard Courtois. Que dire donc de la victoire de Louis Alliot à Perpignan, avec d'autres villes comme Mazan notamment, qui a été remportée par le Rassemblement national?
Oui, enfin, la victoire de Louis Alliot à Perpignan, c'est l'image est rebattue, mais enfin c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que c'est la première ville de plus de 100 000 habitants depuis Toulon. Mais au même moment, Ravier, dans le 7e secteur de Marseille, secteur qui compte plus de 100 000 habitants, perd ce secteur. Et certes, il y a la victoire à Moissac, il y a la victoire à Bruay, la Bussière, mais il y a aussi l'échec au Luc ou l'échec à Mantes-la-Jolie.
Et à Menton.
Le résultat est faible, mais les ambitions réelles étaient également très faibles. Certes, Marine Le Pen, au mois de janvier, avait dit « on va faire sauter le plafond de verre ». Bon, le plafond de verre n'a pas sauté, et le Rassemblement National a présenté beaucoup moins de listes cette année qu'il y a 6 ans, et aura beaucoup moins de conseillers municipaux et donc de relais locaux qu'elle n'en avait.
Frédéric Saïs, est-ce que si l'on poursuit votre biais politique, cela signifie, malgré ces résultats qui sont strictement factuels, qu'il est difficile d'en tirer des enseignements au sujet du Rassemblement National?
Ce qui est compliqué, c'est que Louis Alliot a fait une campagne en s'inspirant de Robert Ménard, c'est-à-dire en accent sa stratégie vraiment sur le local. Il n'était pas là pour parler d'immigration, il n'était pas là pour parler de fiscalité globale, il n'était pas là pour aborder les thèmes nationaux qu'utilise Marine Le Pen au cours des campagnes présidentielles. Il était là pour dire, moi, je vais remettre de la sécurité en ville, tout en apaisant, tout en gardant un ton raisonnable, entre guillemets, pour montrer que le Rassemblement National, ça n'est pas la guerre civile, comme le disent les adversaires de ce parti lorsque Marine Le Pen est en bonne position. C'est une gestion quotidienne dans la ville qui correspond aux attentes des électeurs. Il est vrai qu'il renforce plutôt ses positions dans ses bastions gagnés en 2014, ça c'est vrai, et c'est un constat tout de même qui est important. Cela veut dire que les dirigeants Rassemblement National sortants ont plutôt convaincu malgré tout, même s'il y a des exceptions. Je pense à Hénin Beaumont, je pense à Villers-Cotterêts, où les sortants repassent également. En revanche, on ne peut pas dire que maintenant la carte de France soit particulièrement teintée de la couleur du Rassemblement National. Ça n'est pas hier un franc succès pour le parti de Marine Le Pen.
Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel Bois ?
Oui, je suis d'accord. Hein, le Rassemblement National n'avait pas des ambitions extraordinaires. Voilà, et le cas de Alliot contre Pujol, c'est un peu particulier parce qu'au fond on avait un front dit républicain un peu bariolé, un sortant qui n'était pas dans une forme politique extraordinaire. Donc ça ne dit rien au moins par rapport à la victoire de Alliot, mais ça la localise un tout petit peu, quoi. Voilà, il y a une vague verte, mais il n'y a pas une vague RN de loin. Ils n'avaient pas des très fortes ambitions et ils n'ont pas des très fortes réussites. Ça veut dire que quand même ce parti continue à avoir qu'on dise, Madame Le Pen, un plafond de verre, en tout cas sur ces élections de type local.
Il y a un certain nombre de victoires socialistes, à commencer par Paris, Gérard Courtois. Et on peut également évoquer la victoire de Mathieu Klein à Nancy contre un candidat centriste qui est là aussi une victoire pour les socialistes. Est-ce que ça signifie que le Parti socialiste en a fini avec sa difficile traversée du désert ?
Il a stoppé l'hémorragie, ça c'est clair, conservé la plupart de ses fiefs, y compris Lille bien entendu, et Paris, et gagné quand même pas mal de vives hein, sur la droite ou sur le PC, le symbole de Saint-Denis. Est-ce qu'il est sorti de l'état de coma léger dans lequel il était depuis 3 ans.
Coma léger, c'est un oxymore.
Oui.
Ça reste... enfin, je veux dire, c'est compliqué d'imaginer un coma léger. Disons
qu'il était en réanimation, pour employer une expression d'actualité. Bon, la suite n'est pas écrite. Je suis d'accord avec Frédéric Seyss sur le fait que le taux de participation rend difficile les extrapolations au niveau national. Il a, à l'évidence, retrouvé sur le terrain local. Il y a toujours eu un socialisme municipal. C'est sur la base municipale que les socialistes ont construit leur victoire de 81, en réalité, au municipal de 77. C'est sur la base des municipales de 2000. De 2000, je ne sais plus la date, 2010, me semble-t-il que François Hollande a trouvé des relais pour l'emporter, important, très important pour l'emporter en 2012. Donc il y a ce socle, et ce socle, ils l'ont préservé. Pour la suite, c'est essentiel. Et pour le rapport de force avec les écologistes aussi.
Frédéric Seyss. Ce qui est intéressant aussi à discerner, c'est la place des femmes dans ce deuxième tour des élections municipales. Si on fait un rapide bilan dans les grandes villes, Paris, Marseille, Amiens, Rennes, Nantes, Poitiers, Lille, avec Martine Aubry réélue, seront dirigées par des femmes. C'est même la première fois dans certaines villes, comme à Guéret ou à Périgueux. Il y a des maires qui ont été élus des maires femmes. Et c'est la première fois aussi à Saint-Denis de la Réunion. Ce n'est pas anecdotique dans la mesure où la fonction de maire était encore l'une des plus masculines, bien plus par exemple que celle de député. Député, on a 40% de femmes à l'Assemblée nationale. On avait 16% seulement de femmes qui dirigeaient des communes en France.
Daniel Bois, un mot de conclusion. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, là aussi pour les écologistes? Est-ce qu'on a affaire à une transformation du mouvement? Est-ce que ces victoires aux municipales laissent augurer une évolution significative de ce parti politique?
Alors le problème des Verts, c'est que le mouvement lui-même, les structures du mouvement, c'est pas quelque chose qui fonctionne très 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 bien de lointain. Il y a des statuts qui sont extrêmement compliqués. C'est un mouvement qui est petit, hein. Dans les bonnes années, il arrive jusqu'à 10 000 adhérents, mais pas beaucoup plus. On va le voir certainement gonfler dans les jours qui viennent, j'ai aucun doute là-dessus. Mais c'est un mouvement qui est quand même un petit peu, j'ose pas dire rouillé, mais un petit peu ancien. Et les transformations, ils ont eu beaucoup de mal à en faire. Rappelez-vous, Europe Écologie Les Verts, donc en 2009, c'était supposé être un nouveau parti, une alliance entre le mouvement environnemental avec des gens qui venaient de chez Hulot et puis les Verts classiques. Ça n'a pas vraiment changé le parti. Bon, ceci dit, on peut avoir un parti qui n'est pas dans une forme extraordinaire et quand même remporter les élections. C'est pas absolument crucial pour l'instant. Mais voilà, le mouvement, il a beaucoup de mal, il a toujours eu beaucoup de mal à se rénover de l'intérieur. Il y a eu je ne sais combien de tentatives de remise à zéro, de repartir, bon, de changer les statuts.
Fatalité.
Et puis ça change pas beaucoup en général.
Est-ce que c'est une fatalité, Daniel Bois? Est-ce que, je ne sais pas, il y aurait une mentalité libertaire qui empêcherait l'organisation du mouvement? Est-ce que c'est compliqué finalement d'avoir affaire à un mouvement homogène?
Ben, vous savez, tous les partis, ils ont du mal à définir leur fonctionnement. Regardez, En Marche n'y a pas véritablement arrivé. C'est-à-dire que le problème de la démocratie dans les partis, à la fois respecter la démocratie et être efficace, c'est un vieux dilemme très très compliqué. Et donc, je pense que ni les nouveaux partis, ni les anciens partis, mais l'exemple d'En Marche est vraiment exemplaire, je trouve. Ils n'ont pas réussi alors qu'ils voulaient fonder un mouvement différent, fonctionnant sur d'autres bases. Quelle base? J'en sais rien. Donc, toujours problème entre les élites du parti et la base, entre la démocratie dans le parti, entre les primaires qui arrivent pas aux résultats qu'on souhaitait ou qui ont des résultats catastrophiques. Là, tout ça, tous les partis sont en face de ça. Donc les Verts aussi, mais guère plus que les autres.
L'avenir de la République en marche et d'Emmanuel Macron, il va prendre la parole tout à l'heure au sujet de cette convention citoyenne et puis plus largement, il est attendu sur un hypothétique remaniement, je ne sais pas, une inflexion de sa politique. Votre point de vue à ce sujet, Gérard Courtois?
Macron est un assez bon acteur, il l'a démontré depuis 3 ans, hein. Mais le rôle qu'il est maintenant, qu'il s'est donné à lui-même pour les 2 ans qui viennent, me paraît extrêmement compliqué. Puisqu'il a dit qu'il fallait se réinventer, mais qu'il doit également rester fidèle à lui-même, sauf à se renier et à se mettre en porte-à-faux grave avec son électorat. Alors, il y a des gens qui passent 10 ans en analyse, hein, pour comprendre que se réinventer, c'est pas simple.
Ah, même plus, hein.
Ou parfois plus.
Comme Emmanuel Macron est jeune, il a.
Oui, peut-être. Il peut être longtemps que ce sera une solution pour la suite. J'en sais rien. Non, mais blague à part, il y a quelque chose de très improbable, me semble-t-il, dans cette réinvention annoncée. On verra. Ça commencera par passer par le choix d'une équipe et d'un Premier ministre. Gardera-t-il ou pas, puisque la question est posée, semble-t-il, Édouard Philippe. S'en priver, ce serait se priver d'un atout. Il n'en a pas beaucoup. Encore faudrait-il que Édouard Philippe, et il a assez clairement dit les choses il y a quelques jours, accepte de mener la politique, une politique qui ne serait pas conforme à ses propres convictions et à ses propres engagements. Ce qui n'est pas exclu, compte tenu de, semble-t-il...
Un divorce à l'amiable.
Possiblement. Possiblement. Édouard Philippe est dans la position la plus confortable. Il est certes il est dépendant du président. En même temps, il vient d'être réélu très largement au Havre et il sort de la crise de l'épidémie et la crise sanitaire de manière beaucoup plus gratifiant n'est pas le mot, mais enfin en tout cas beaucoup plus.
Il s'en sort mieux.
Il s'en sort beaucoup mieux que le président de la République.
Frédéric Saïs, un mot de conclusion à ce sujet.
Alors à ce sujet, il y a deux choses. Il y a la forme et disons le fond idéologique. Sur le fond idéologique, sur le papier, ça semble simple. Il y a une poussée écologiste majeure. Le président, qui lui-même se prétend maintenant très sensible à ces sujets, devrait adapter sa politique et devrait développer une politique verte. Dit comme ça a l'air très simple. Cyniquement, c'est un peu plus compliqué. compliqué puisque on sait que son électorat maintenant c'est le centre droit, qui est un électorat qui n'est pas hostile à la transition énergétique, mais qui n'est pas non plus moteur, si j'ose dire, quant aux mesures un petit peu punitives et ou en tout cas un petit peu difficiles à appliquer, et donc il risque de perdre son électorat, s'il fait un tournant vert, sans gagner pour autant celui des écologistes qui trouveront toujours qu'il ne va pas assez loin, par définition, puisque c'est un sujet sur lequel on ne peut pas être vraiment tiède. Pour Édouard Philippe, il a deux options aussi inconfortables l'une que l'autre. Soit il le renvoie, il se prive de quelqu'un qui a tout de même été assez sérieux, assez sobre, assez solide pendant la crise du coronavirus. C'est quand même un Premier ministre dont la cote de popularité a augmenté pendant la crise sanitaire, ça n'est pas rien. Soit il le conserve à la condition de changer l'intégralité quasiment du gouvernement pour montrer tout de même que la modification est là et que le message a été entendu. Le problème, il reste le même depuis le début du quinquennat. C'est qui, derrière, pour assurer la difficile charge d'être ministre? Et on ne voit pas vraiment beaucoup de profils qui aient émergé, y compris hier soir. Il n'y a pas comme ça de jeunes responsables politiques qui soit apparu, dont on se soit dit, voilà, cette personne-là, c'est l'avenir.
Merci pour vos différentes analyses. Merci Gérard Courtois, merci Daniel Bois, et merci Frédéric Seize.